Votre grand journal du soir sur Europe 1, vous écoutez jusqu'à 20h, Mathieu Béliard.
Et les grandes voix, nous sommes vendredi. Bonsoir Michel Cotta.
Bonsoir.
Michel, comment ça va?
Ouais, très bien.
Très bien. Catherine Ney est avec nous.
Mais
aussi.
Oui, bonsoir,
bonsoir Catherine. Et bonsoir,
bonsoir
Charles Villeneuve. Vous allez bien?
Mais oui.
Nous allons parler beaucoup de Notre-Dame sous plusieurs aspects. Évidemment, vous le savez, jusqu'à 20h, vous intervenez à nouveau au 39-21 si vous le souhaitez. Mais d'abord, comme tous les soirs, nous sommes avec Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Benjamin, comme chaque vendredi, on fait avec vous le bilan de la semaine passée dans le grand journal du soir. Alors, évidemment, une actualité qui a marqué la semaine.
Lundi, on était proche de 19h quand Marion Calais annonce la nouvelle.
En fait, cette information dévoilée ce soir par les pompiers de Paris, un incendie en cours à Notre-Dame de Paris, la cathédrale.
Alors, dans la foulée, vous en doutez, les reporters d'Europe 1 foncent sur place, dont Théo Manval, rapidement en direct avec vous, Mathieu.
Immense panache de fumée qu'on a pu voir en arrivant ici jusqu'à Notre-Dame. Depuis l'autre bout de Paris, depuis l'ouest de Paris, la fumée est tellement épaisse qu'on a même des projections de morceaux de cendres qui tombent sur nous.
Alors la suite donc, émission spéciale bien sûr, l'angoisse, les pompiers, la prise de parole de Macron, les nouvelles rassurantes et ce témoignage exceptionnel. C'était mercredi du père Jean-Marc Fournier, il a été l'un des premiers à entrer dans la cathédrale pendant l'incendie pour sauver ce qui était sauvable.
C'est à la fois la tranquillité qui a toujours existé dans cette cathédrale, mais en même temps une vision apocalyptique qui se manifeste à nos yeux. Ce sont des pluies de cendres, des pluies aussi de flammèches et puis des tas incandescents devant chacun des deux autels.
Et alors sa grande priorité au père Fournier, il vous l'a raconté en entrant dans la cathédrale, c'était de sauver la couronne du Christ, ce qu'il a réussi à faire avec ses camarades pompiers de Paris.
Nous rentrons par une porte latérale. Et une fois qu'on rentre dans cette cathédrale, il nous suffit de longer par les déambulatoires les murs. Et de cette manière, une fois l'œuvre, cette sainte relique mise en sécurité, eh bien de pouvoir nous atteler à la protection du patrimoine culturel, des œuvres de peinture par exemple.
Voilà le père Fournier qui sauve l'un des joyaux de l'humanité et qu'il raconte en toute sobriété.
Ah oui, quelle modestie.
Il était presque gêné de raconter tout ça.
C'était incroyable.
Incroyable. Beaucoup d'appels aussi toute la semaine au 39-21 d'auditeurs choqués par les images qui vous ont raconté avoir tout de suite voulu faire un don comme Giovanni.
Oui, j'ai donné naturellement, c'est sûr.
Vous avez donné naturellement. Immédiatement, c'était une évidence pour vous, Giovanni?
Ah oui, avec mon épouse, oui, c'était une évidence. On a vu les images, et on l'a fait tout de suite, quoi. Bon, pour l'instant, j'ai donné 300 euros, mais je pense que je vais donner encore. On verra bien, je vais en discuter avec mon épouse.
Voilà, Giovanni, et un autre appel mercredi d'Olivier, lui aussi a donné, mais il a cherché à donner une dimension symbolique à ce don.
En fait, quand moi j'ai donné, je me suis dit... qu'est-ce qu'on pourrait faire de manière symbolique. Et le symbole, je l'ai mis dans le montant que j'ai donné. J'ai choisi de donner 1163 euros. Et 1163 euros, c'est l'année du début de la construction de Notre-Dame de Paris.
Voilà, là aussi, témoignage incroyable.
Parce que la fin de la construction, c'était plus cher.
C'est pas pour le début. Et alors, à propos des dons, vous étiez en ligne dans la semaine avec le ministre
de la Culture,
Franck Riester, qui a expliqué comment donner, sur quel site, tout ça. Et à la fin de l'interview, Mathieu, petit coquinou, vous n'avez pas pu vous en empêcher.
Franck Riester, même question que pour tous nos auditeurs. Est-ce que vous avez donné, vous?
Pas encore. Je dois dire que j'ai eu la tête déjà à beaucoup de choses et on est en réunion de crise sur réunion de crise. Donc je le ferai bien évidemment.
Très bien, très bien. Vous avez entendu le petit rire gêné, hein? Mais à coup sûr, je suis sûr, il a trouvé le temps de donner depuis. Bon, cette semaine, nous n'avons pas parlé que de Notre-Dame, bien sûr. Allez, un petit jingle pour assurer la transition, s'il te plaît, Jean.
Il est 19h30, vos invités, Mathieu Béliard sur Europe 1.
Oui, sur Europe 1, c'est notre nouvelle radio. Vous avez aussi parlé des pensions de retraite. C'était intéressant, là, avec un grand spécialiste du sujet. Christian, vous voyez de quoi je parle. Christian Bourreau, c'était hier, un super invité, très clair, mais difficile de conclure.
Et tout le monde est concerné par le maintien du pouvoir d'achat. Alors,
merci Christian Bourreau.
Les pensions,
toutes les pensions sur l'inflation.
C'est pas une libéralité.
Les merci.
Pensions, c'est un droit.
Merci
un droit.
Christian Bourreau.
Ah, vous l'aurez remercié. Alors, dans le jargon, on dit qu'il faut réussir à couper l'invité. En gros, reprendre la main pour dire au revoir, hein, il est l'heure, il faut passer à autre chose. Mais bon, parfois, les invités, ils sont incoupables.
Merci Christian Bourreau. On l'a déjà rappelé. Christian Bourreau.
Et qu'on veut les récupérer, c'est pas ça.
Vous m'entendez pas, Christian Bourreau.
Les cotisations qu'on a payées, elles ont permis de financer les retraites de nos parents.
Oui, il y a peut-être un problème. Vous savez quoi, Mathieu? Ça m'a fait penser à une pub que j'ai entendue justement sur Europe 1.
Alors, monsieur Maillard, vous entendez mieux avec vos appareil auditif.
Ah, ça doit être ça. C'était monsieur Maillard.
Aucun respect.
Allez, bon week-end Mathieu, bon week-end Ombline. Un week-end sur quelle station d'ailleurs?
Sur Europe 1.
Bon week-end Benjamin Muller, 19h26. Vous restez bien sur Europe 1. Le débat avec les grandes voix, Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve. À tout de suite.
Vous écoutez Mathieu Bélière jusqu'à 20h et comme chaque vendredi soir, les grandes voix d'Europe 1. Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Merci à vous trois d'être avec nous. Nous allons évidemment parler de ce qui a été l'actualité de la semaine, le sujet à la une tout au long de cette semaine, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Plusieurs aspects, plusieurs angles. Il y a eu des polémiques aussi, on en a parlé ici. Mais d'abord, je voulais, chère grande voix, vous interroger sur le choix d'un général d'armée, 5 étoiles, pour organiser la reconstruction. Jean-Louis Georgelin, il fallait un militaire pour reconstruire une cathédrale ?
Écoutez, Charles reconstruire Notre-Dame en 5 ans, c'est-à-dire sabre au clair, je vois pas d'autre qu'un militaire. Et puis, c'est pas n'importe quel militaire, il fallait qu'il coche 3 cases. Lorsqu'il s'est retrouvé mardi dernier dans le bureau du chef de l'État, face à lui Emmanuel Macron, et comme témoin, un seul témoin, l'amiral Rogel, chef d'état-major particulier du président Macron, mais aussi un fan, je dirais, de Jean-Louis Georgelin, et qui a servi sous les ordres de Georgelin lorsqu'il était chef d'état-major de la marine. Je parle de Rogel. Et que le président de la République lui a dit, écoutez, il nous fallait quelqu'un de croyant et pratiquant. Et je sais que vous êtes très attaché à Notre-Dame de Paris, puisque le général commandant les pompiers de Paris, le général Gallet, m'en a parlé. Évidemment, puisque le général Gallet avait été l'élève à Saint-Cyr du général Georgelin. Deuxième chose, qu'il fallait qu'il occupe ou qu'il avait occupé un très haut poste dans la fonction publique et de manière incontestable. Ce qu'il a fait, puisqu'il a été chef d'état-major des armées, il a été grand chancelier de la Légion d'honneur, commandant la 11e division parachutiste, etc., etc. Et qu'il est diplômé de l'école de guerre américaine et de l'école supérieure de guerre française. Donc, et la troisième condition, c'est qu'il lui fallait un organisateur. Et vous savez qu'un chef d'état-major, général 5 étoiles, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire général d'armée, eh bien c'est le patron de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine. Et donc de coordonner et d'organiser ces trois armées. Donc évidemment, Georgelin a été choisi pour ça.
Bon, il va devoir aussi ajouter les tailleurs de pierre, les charpentiers, désormais, oui, pour organiser tout cela. Jean-Louis Georgelin, l'homme de la situation, Catherine Ney.
De toute façon, reconstruire la cathédrale, c'est un plan de bataille. Il faut un grand stratège. Donc, je veux dire, comme sur le terrain, eh bien, il y a des différents. C'est comme sur une bataille, il y a différents corps d'armée. Je veux dire, Napoléon, il faisait suivre aussi toute la logistique. Eh bien, c'est la logistique qui suit. Et donc, il va savoir. Et en plus, je crois que c'est quelqu'un. Enfin, on le connaît. C'est quelqu'un qui a une autorité, qui a une grande gueule.
On le connaît bien tous les deux.
Oui, qui peut être rugueux, qui a des éclats de rire énormes aussi, et qui est assez bruyant, qui est un grand sportif aussi. Et donc, il va se lancer d'abord.
Il a une voix de stentor.
Ah oui, il a une voix, bon. Et peut-être qu'il va, il va faire peur à tout le monde. Mais enfin, je pense qu'il sera efficace, mais c'est quelqu'un qui, avant de donner des ordres, va bien se mettre. C'est difficile de bien tout appréhender sur ce qu'il y a à faire. Hein. Il y a une préparation de lui-même, une préparation quasi militaire, pour savoir ce qu'il convient de faire sur ce terrain, qui est quand même quelque chose de particulier.
Voilà, mais il ne faut pas oublier que c'est un intellectuel. Hein.
Ce n'était pas le général le plus proche d'Emmanuel Macron, comme vous savez, puisque au moment de l'affaire de Villiers, il avait pris tout à fait la défense pour le général de Villiers. Donc déjà, et puis je crois qu'il faut pour ce genre de... Moi aussi, je me suis dit, pardon, mais je les connais moins bien que mes deux camarades, là. Et je me suis dit, pourquoi un général Mitterrand avait choisi quand même quelqu'un qui sortait du cabinet de Malraux pour faire le Grand Louvre, par exemple. Mais c'était quelqu'un aussi de très rugueux. Je crois qu'il faut quelqu'un de très déterminé, de très organisé. Et ça, effectivement, Georgelin a l'air de l'être. Alors, en revanche, dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, moi, je trouve que le choix du général Georgelin, parce qu'il est chrétien, je trouve que c'est réducteur. On a le droit de ne pas être chrétien, hein, et de ne pas croire en Dieu, et de vouloir que la cathédrale soit reconstruite. Donc je trouve que c'est peut-être un bon choix, mais c'est le critère que je n'aurais, c'est pas le critère que j'aurais retenu, en tout cas.
Oui, alors une autorité, un chrétien, un pratiquant, hein. Pas seulement croyant, un pratiquant, disiez-vous.
Oui, parce que quand il était grand chancelier, tous les samedis après-midi, il allait aux vêpres, notamment, c'est pas pour ça essentiellement qu'il a été choisi, mais je considère que dire, parce qu'il est chrétien et pratiquant, que peut-être il n'aurait pas fallu le choisir, ou en tout cas que c'est un critère finalement négatif. Moi, je m'excuse, mais c'est d'abord...
Je savais que j'allais t'énerver.
Non, mais tu ne m'énerves pas. La France a des racines quand même chrétiennes, les catholiques sont quand même majoritaires dans ce pays, et que se cacher derrière son petit doigt pour dire « mais ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on doit choisir », je ne suis pas d'accord.
Mais fais comme tu veux. Moi, je me sens concernée aussi. On est aussi concernés. Ce que je veux dire, ce n'est pas incompatible, mais je crois que ce n'est pas le seul. Je me sens aussi proche de Notre-Dame et aussi persuadée qu'il faut la reconstruire le plus vite possible que si j'étais au Vêpres.
Voilà. Oui, mais on pourrait dire que quand on est un homme de foi, on est d'autant plus pénétré par la mission qu'on vient de vous confier.
Très bien, ça m'amène à une autre question que je voulais vous poser. Sur la reconstruction de la cathédrale, merci Catherine d'avoir pacifié ce plateau autour du général. Non, plus sérieusement, ce débat autour de la reconstruction de rebâtir, c'est le verbe qu'a utilisé Emmanuel Macron et qui a été contesté. Est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique ou est-ce qu'il faut reconstruire avec une touche de 2019 ?
Il a deux dossiers majeurs à régler. Ce dossier-là, effectivement, à l'identique ou une pointe de modernité, et Dieu sait si depuis 40, 50 ans même, Notre-Dame de Paris profite de cette modernité en s'adaptant justement à une évolution architecturale. D'ailleurs, le cardinal Lustiger a modifié, ne serait-ce que toute la vision à l'interne de Notre-Dame, avec cette grande croix lumineuse qu'on a découvert juste après l'incendie, quand une caméra
qui est restée intacte,
absolument. Et le deuxième, et c'est pour ça qu'il a été choisi notamment, pas seulement parce qu'il est chrétien, mais aussi parce qu'il est chrétien, la restauration de Notre-Dame va évidemment, en 5 ans, être accélérée, en quelque sorte. Et partant de là, l'inertie de l'administration, qui est toujours assez grande, il est là pour la secouer.
Il faut bien comprendre qu'on ne va pas attaquer le chantier demain. On va vérifier tout ce qui tient, est-ce qu'il tient bien.
Il y a un problème, c'est que si vous voulez reconstruire à l'identique, ça veut dire que vous refaites un toit tel qu'il était, c'est avec des arbres qui étaient là depuis 800 ans, qui, eux, n'avaient pas été atteints depuis autant d'années. Mais un bois, pour arriver à avoir cette densité, cette sécheresse, je veux dire, aujourd'hui, si on coupe des arbres, il y en a dans la forêt, il faut attendre plusieurs années pour qu'elle soit... Parce qu'un bois qui est encore humide, il joue, il se déforme. Donc, il y a des procédures très longues, très compliquées, pour que le bois soit, comme ça, imputrescible. Sinon, la construction ne tient pas. Donc, les architectes, aujourd'hui, disent, si on veut aller vite, on ne peut pas revenir à
l'eau. Si je vous
bois.
Comprends bien, oui, si on veut faire ces travaux en 5 ans, il faut moderniser.
De toute façon, attendez, on n'est pas obligé. Ce à quoi nous sommes attachés les uns et les autres, c'est la toiture. Maintenant, savoir que c'est des arbres qui datent de 850 ans.
Ou du béton.
Ou des plaques en béton, comme ça a été fait dans d'autres cathédrales, ça, on s'en fiche.
La seule
question est de savoir et de dire qu'on a quand même modernisé tout le temps Notre-Dame. Viollet-le-Duc, cette flèche, elle est à la fin du 19e siècle, alors que Notre-Dame avait été construite. Donc, chacun y a été un peu de sa reconstruction. Il n'y aurait pas la flèche, moi, ça ne me gênerait pas. Maintenant, on va bien voir, il va y avoir des architectes...
Mais ne serait-ce que les vitraux de Malraux aussi. Donc, il y a des rosaces aussi qui ont été ajoutées, en tout cas modifiées.
Bien sûr, chaque époque apporte de son
époque.
Alors,
cette querelle de moderne, ancien, ancien, moderne, je crois que ce qu'il faut surtout, et compte tenu des délais impartis, qui correspondent à l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, il est bien évident que le choix qui a été fait va favoriser plutôt l'industrie que l'artisanat, même si les artisans vont être présents.
Pas faire vieillir
aussi
des arbres prématurément.
Oui. 19h38.
Non, mais il y a du titane aujourd'hui, les grands architectes.
J'avais du mal à concevoir les IPN pour porter la toiture de Notre-Dame, mais il faut vivre avec son temps aussi.
De toute façon, vous aviez visité la forêt, non?
Non. 19h38 sur Europe 1, restez bien avec nous. Je voudrais qu'on ait aussi une discussion avec vous, mes chers Grandevoix, Michel Cotta, Catherine et Charles Villeneuve, sur cette polémique en fin de semaine sur les dons. Plus de 850 millions d'euros de dons pour Notre-Dame et des mécènes montrés du doigt ces derniers jours. On revient dans quelques secondes.
19h40, vous écoutez c'est Mathieu Béliard et les grandes voix d'Europe 1, Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve.
La cathédrale Notre-Dame de Paris, pour laquelle il a fallu quasiment faire la quête ces dernières années pour obtenir des sous pour sa rénovation. Aujourd'hui, en quelques 48 heures, plus de 850 millions d'euros ont été récoltés. Alors il y a eu des polémiques sur ces montants. Est-ce que c'était pour optimiser? Alors, les familles Arnaud et Pinault ont été très claires, Decaux aussi, pour expliquer qu'on ne bénéficierait pas de l'avantage fiscal. Ça vous a agacé, Michel Cotta?
Oui, cette polémique sur les dons, ça atteint les sommets. Quand on dit l'État doit payer et pas les promoteurs privés ou pas les mécènes, mais l'État, c'est qui? L'État, c'est les Français. On a l'impression qu'on dit l'État doit se donner le mal de payer. Mais tant mieux, on lui donne de l'argent, tant mieux, mais l'argent qu'on lui donne, c'est notre argent. C'est notre argent, c'est lui qui l'utilise. Donc il n'y a pas d'argent de l'État d'un côté et de l'autre côté, l'argent des Français. Oui. C'est vraiment... Mais on a entendu quand même des bêtises absolument inouïes pendant ces quelques jours.
Et là, je suis parfaitement d'accord avec vous.
Non, Catherine. Mais moi, je trouve que surtout ce qui s'est exprimé à travers, on disait, mais comment ils peuvent donner 100 millions le premier et puis 200 millions l'autre, ce qui fait drôle parce qu'il y a toujours
une surenchère
entre les deux. Et alors, mais comment ils auraient dû en donner pour les Gilets jaunes et comment... Et c'était presque... Et considérés comme des salauds de riches parce que tout d'un coup ils allaient sauver Notre-Dame et pas les gens qui n'ont pas répondu aux gilets jaunes qui défilent. Non, mais c'est quand même extraordinaire.
Il y avait
et
peut-être un peu de jalousie.
Mais il y a de la jalousie, il y a de la frustration, c'est très français.
On a donné l'image, on a projeté l'image d'un pays de l'envie, d'un pays de la haine de classe. Finalement, quand ils ne donnent rien, les riches, ce sont des égoïstes. Et quand ils donnent, ils font de la communication.
Et des profiteurs de la fiscalité.
Comme le rappelait Michel, a juste raison, mais l'argent de l'État, c'est le nôtre. C'est nous qui leur donnons de l'argent, ne serait-ce que par l'impôt. Je ne sais pas ce que ça va être bientôt, la ponction de l'impôt. Mais enfin, il n'empêche que c'est notre pognon.
Michel Cotta.
Heureusement quand même, pour nuancer ça, c'est vrai qu'il y a eu cette polémique. Mais enfin, il y a eu aussi la soirée. Tout Paris s'est mobilisé pour regarder les larmes aux yeux.
Mais c'était une communion parisienne, ceux qui croyaient, qui ne croyaient pas.
Voilà, c'était vraiment quelque chose de formidable. Ah, et oui. Ça, je pense que c'est majoritaire en France. Et que quand même, les coups de canif, faut pas non plus, on répétera comme beaucoup l'ont fait, que les gilets jaunes, c'est quand même...
Alors,
pas
il y a eu des manifestations politiques sur les plateaux de télé avec des formes d'agacement. Et oui, c'est facile de montrer du doigt les riches, les Arnaud, Pinault, Decaux, etc. Mais la Fondation Abbé Pierre, par exemple, hier, qui dit juste, n'oublions pas qu'il y a aussi des démunis, qu'il y a aussi des besoins par ailleurs. Alors, pour tout vous dire, pour avoir... Notre équipe a passé des coups de fil hier. Les autres associations étaient un peu empruntées par cette mécénat, déclaration.
Un peu empruntées. Le mécénat, ça existe en France. Il n'y a pas que... Et la Fondation de l'Abbé Pierre est aussi l'objet d'un mécénat. Alors, ce mécénat-là répond à une intense émotion. Mais autrement, beaucoup et justement, les mêmes gens qui donnent à Notre-Dame de Paris donnent aussi à beaucoup d'associations de ce genre.
Catherine ?
Non, mais il y a chez le problème en France quand même le mot riche. Vous connaissez D'ailleurs, ça renvoie à une vieille tradition occidentale chrétienne qui s'enracine d'ailleurs dans l'Évangile et qui dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc vous voyez, il y a toujours cette idée que non, le riche, c'est celui qui profite, qui ne distribue pas, et que l'Église rejette. Hein.
Dans la religion catholique, le riche doit distribuer ses richesses.
Oui.
Voilà.
Oui, ça. Non, mais
là, pour le coup, il distribue. Oui.
Voilà. Non, mais ce qu'il y a de particulier avec cet incendie de Notre-Dame de Paris, bien sûr, la cathédrale illustre l'Église de France, mais incarne aussi la figure de la France, de son histoire, de sa culture, pas seulement de sa religion. Toute l'histoire de France s'y est déroulée, des couronnements de l'Ancien Régime jusqu'au Te Deum du petit Louis XIV qui n'a pas encore sa majorité. Et puis ensuite, la République qui s'est imposée en France tout à fait démocratiquement, et bien jusqu'au général de Gaulle qui a célébré la libération de Paris en 1944 ou dans la cathédrale, les obsèques, bien sûr, le couronnement de Napoléon.
Oui, je suis en train de regarder parce que j'avais un doute. Le sacre de Napoléon, oui, c'est très bien Notre-Dame.
Bien sûr, bien sûr. Ça aurait dû être, selon la tradition, non, si vous voulez, de l'ancien régime à Reims, mais c'est lui qui a renversé complètement. Et vous savez que le général de Gaulle n'a pas voulu que l'archevêque de Notre-Dame, en 44, vienne le recevoir sur le parvis de Notre-Dame, parce qu'il avait reçu une semaine auparavant le maréchal Pétain. Donc c'est un lieu politique, c'est aussi religieux que politique, Notre-Dame de Paris.
Il y a un signe extraordinaire. Amazon, le site de lecture, le Notre-Dame de Victor Hugo a d'un seul coup flambé. Toutes les librairies sont mises à vendre Notre-Dame de Victor Hugo, comme si... c'est normal d'ailleurs, puisque c'est à cause de ce roman de Victor Hugo qu'après... la cathédrale a été revue justement par Viollet-le-Duc. Donc ça veut dire quelque chose pour la majorité des Français, et ça quand même, c'est formidable.
Et à l'international, on s'est peut-être aussi aperçu de l'intérêt du
Chinois,
monde entier pour
Notre-Dame. Mais c'est un bien de l'humanité aussi, tout entière aujourd'hui, Notre-Dame de Paris. Évidemment, c'est classé par l'UNESCO, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, regardez comment les Américains, pas seulement pour Notre-Dame de Paris, comme moyen, les Américains se mobilisent pour le château de Versailles, pour une raison simple, là aussi l'histoire intervient. C'est qu'en 1914-18, Première Guerre mondiale, c'est devenu un hôpital de campagne, la Galerie des Glaces, et Nelson Rockefeller, qui est un milliardaire, si vous voulez, américain, lui s'est occupé de la remise en état totale de la Galerie des Glaces, parce qu'il a été blessé gravement et soigné dans la Galerie des Glaces.
Non, je crois qu'il faut quand même vraiment que les gens distinguent les dons, le mécénat pour quelque chose, pour une œuvre, pour le patrimoine, et puis l'organisation sociale. Le salariat, l'organisation sociale de la France. Il ne faut pas mélanger. Pinault ne peut pas donner directement 200 millions aux Gilets jaunes. Voilà, ça ne se fait pas comme ça.
19h47.
Europe 1.
Nous quittons Notre-Dame de Paris, nous quittons le château de Versailles pour arriver au palais de l'Élysée. Emmanuel Macron a eu sa semaine contrariée en début de semaine. Il devait donner ses conclusions du grand débat national aux Français, pas qu'aux Gilets jaunes, aux Français. Finalement, ce sera jeudi prochain, 18h, dans le cadre d'une conférence de presse. On en parle avec les grandes voix dans quelques secondes. Restez bien sur Europe 1.
Vous écoutez Mathieu Béliard et les grandes voix d'Europe 1 jusqu'à 20h. Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Alors, Emmanuel Macron devait parler lundi dernier à 20h. L'incendie de Notre-Dame, évidemment, il ne pouvait pas prendre la parole dans ce contexte ce soir-là. Jeudi prochain, 18h, conférence de presse au palais de l'Élysée. Je vous le dis déjà, vous n'en manquerez rien sur Europe 1 et nous débattrons par la suite de ce qui a été annoncé, confirmé par Emmanuel Macron, parce que là, on a eu des pistes. Mais il faut bien le rappeler à chaque fois, Emmanuel Macron n'a pas parlé. Il va pouvoir amender ses pistes, il va pouvoir faire comme avec les ballons d'essai, si vous voulez, essayer d'arranger le tir. Michel Cotta, vous vouliez revenir sur l'annonce de la suppression de l'ENA?
Oui, parce qu'on l'entend dans les mesures telles qu'elles ont été un peu divulguées. Elles sont pas vraiment. Il faut croire.
Comme on dit dans les discours, seul
le prononcé fait foi.
Voilà. Voilà.
Or, ça n'a pas été prononcé. Alors, enfin, ça n'a pas été diffusé. Alors, simplement, l'annonce de l'ENA, si elle est vraie, si elle est quand même une démagogie formidable. C'est-à-dire, moi, j'arrive pas à croire qu'on peut dire. On supprime l'ENA uniquement parce que ça fait
plaisir. Parce que les Gilets jaunes n'aiment pas les élites, c'est complètement
mais
idiot.
Il y a place pour une révision de l'ENA qui donne trop de place effectivement à une certaine catégorie sociologique par rapport aux autres. Il faut qu'il faille transformer l'ENA, sûrement, parce qu'on a bien vu quand même ces échecs.
Mais enfin, c'est dans l'air depuis très longtemps, la suppression de l'ENA. Marie-Lise Branchu, qui était l'une des ministres de la fonction publique, c'était sa grande idée de changer. Elle était contre la domination des grands corps de l'État et elle trouvait que ceux qui prennent la décision sont les plus éloignés du
concret,
produit
du
final et du près du terrain. Donc il faut changer ça, parce qu'on sort de l'ENA et après on va donner des leçons aux fonctionnaires qui ont du métier. Ça, c'est insupportable. Donc il faudrait que ceux qui sortent de l'ENA pendant 3 ou 4 ans aillent sur le terrain pour pouvoir après dire les choses. Bon, ça, je pense que le président expliquera sans doute jeudi, mais où je trouve qu'il avait décidé de parler en deux temps. Dans le fond, lundi soir, en 20 minutes, c'était la bande-annonce. Vous voyez, comme pour un film, voilà ce qu'on va voir un peu. Et puis après, le grand film, c'était jeudi, où il allait... jeudi, il va... D'abord, c'est la première fois qu'il va faire une conférence de presse.
C'est vrai.
Donc, il veut donner un tour beaucoup plus chaleureux et dire aux journalistes, vous voyez, je vous considère, puisque maintenant, c'est vous qui posez les questions, alors que jusqu'ici, ils étaient assez exclus. Ils les voyaient... ils ne les voyaient pas beaucoup. Donc c'est quelque chose de très nouveau, à condition qu'ils ne parlent pas pendant 6 heures, parce que comme trop d'impôts, trop d'impôts, tu l'impôts, trop de paroles, tu la parole, voilà. Et donc c'est ça le...
Non mais il a eu de la chance, moi je trouve. Si vous voulez, dans le malheur, dans le malheur de cet incendie, il a eu de la chance puisque les quelques mesures importantes qui ont filtré sont approuvées par une majorité de Français, d'après ce qu'on sait, d'après le sondage. Et donc, il peut corriger le tir peut-être un peu sur l'ENA, parce que moi, je trouve, comme mes camarades, justement, que c'est une mesure, pour ma part, complètement démagogique, même s'il est vrai que les énarques, que l'un des problèmes, notamment ceux qui choisissent les grands corps, sont originaires de milieux sociaux privilégiés et finalement ont perdu le contact sur le plan social avec les Français.
Il a été,
paraît-il, favorablement impressionné. On va revenir à l'armée par le fonctionnement, la sélection de l'école de guerre, puisque la plupart des élèves de l'école de guerre, les officiers supérieurs qui vont faire leur école de guerre, eh bien, les font beaucoup. Si vous voulez, dans les régiments, au contact des soldats, au contact de la base. Et c'est ce qui manque justement chez les énarques, et notamment ceux de l'inspection des finances, ceux du Conseil d'État et ceux de la Cour des comptes.
Ouais, c'est ce que disait un peu Jean-Louis Debré ce matin sur notre antenne.
Oui, il était l'invité de Vrai Crespo Mara.
Voilà, où il disait, si je comprends bien... Il faut quand même de l'expérience et l'éloge de l'expérience par quelqu'un qui a été élu sans expérience.
Est-ce que, au-delà de l'ENA, évidemment, c'était un point saillant, mais il y a eu d'autres annonces. Sur le principe, ça a l'air d'être plutôt bien reçu, perçu en tout cas par les Français. Catherine.
Oui, parce que quand on veut indexer le montant des retraites sur l'inflation, écoutez, ça peut pas être, c'est quand même pas un coup de pied au derrière, vous comprenez. Donc il y a des tas de choses comme ça qui étaient réclamées par les gilets jaunes et tout ça, alors que on vient de parler de l'ENA. Non, il y a plus, y compris dans les débats, il y a plus de gens qui voudraient supprimer le Sénat que de supprimer l'ENA. C'est quand même extraordinaire.
Non,
donc,
mais il a même été assez loin sur certains points. Le référendum d'initiative citoyenne au niveau local, c'est déjà une réponse. Michel.
Tout à fait, mais effectivement, de toute façon, aucune réponse ne conviendra à une partie de la population.
Ce qui est bien reçu, c'est, comme l'a dit Catherine, la réindexation des retraites.
Je me suis entraîné, moi.
La prime exceptionnelle sur les salaires et puis le moratoire sur les fermetures d'écoles et d'hôpitaux. Oui. C'est bien reçu.
Voilà, maintenant, ceux qui veulent absolument un référendum révocatoire pour se débarrasser du président, ça, ils seront déçus, ça, c'est sûr.
Si, c'est tous les 5 ans. C'est tous les 5 ans. Bon, écoutez, je le rappelle, je le reprécise jeudi prochain.
Mais malheureusement, c'est pas pour ça que les gilets jaunes, ça va s'arrêter. Parce que maintenant, les gilets jaunes, c'est devenu un mode de vie pour tout un tas de gens. D'aller le samedi, là, perturber les villes.
23e samedi demain.
C'est le 23e. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'un nombre de personnes qui jouent les boucliers humains pour les casseurs. Oui, c'est devenu un mode de vie. Et de toute façon, quoi que dise le président, ils seront jamais d'accord. Mais au bout d'un moment, quand même, c'est l'autorité de l'État qui va être posée. On va dire, on ne peut pas tous les samedis empêcher les commerçants de vivre. Il va y avoir beaucoup de faillites dans toutes les grandes villes. Et ça, c'est un vrai problème d'autorité.
Il va falloir qu'on sorte de la séquence.
Voilà, et comme on ne peut pas tirer dans le tas, comme disait... Un philosophe, rappelez-moi son nom,
Luc Ferry,
et que c'est pas possible, qu'on est en démocratie, et tant mieux, là, il y a quand même un problème d'autorité.
Moi, je cherchais le temps de Victor Hugo.
Non, c'était plus récent. Merci beaucoup, mes chers grandes voix. Merci d'être venus échanger et débattre ce soir sur ce plateau. Catherine Ney, demain matin, avec Bernard Poirette. La semaine commence presque pour Catherine.
La semaine commence.
Le vendredi soir. Michel Cotta, merci beaucoup. Et Charles Villeneuve, évidemment, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Nous retrouverons lundi soir dès 17h. Je rappelle juste que jeudi soir, à l'occasion de la conférence de presse du président de la République, nous vous proposerons un programme spécial pour que vous puissiez comprendre, décrypter les annonces du président sur Europe 1. Je retrouve à présent Émilie Mazoyer. Bonsoir Émilie.
Salut Mathieu Béliard.
Je sais que c'est la dernière avant les vacances.
Oui. Et après, pendant 2 semaines, vous aurez le bonheur d'entendre l'excellente Karima Charny tous les soirs dans Musique.
Et ce soir dans Musique, qu'est-ce qu'on va entendre, écouter, Émilie?
Alors, c'est un moment pas facile puisqu'on accueille les Cranberries. Leur chanteuse Dolores O'Riordan est morte il y a un an et ils sortent l'album qu'ils étaient en train d'enregistrer au moment de la mort de la chanteuse. C'est donc l'ultime album des Cranberries. Après ce disque-là, il n'y en aura plus. Il s'appelle In The End. Et donc les trois Cranberries, Noël, Mike et Fergal, viennent nous en parler tout à l'heure.
Ça va être un grand moment. Je ne savais pas. Je ne le savais pas. Écoutez, et j'écouterai avec grande attention, fan des Cranberries que je suis. Merci beaucoup, Émilie Mazoyer. Belle soirée en musique jusqu'à 22h. Bon week-end, Ambline.
Bon week-end. Merci, Mathieu Béliard. On vous retrouve lundi. Lundi férié, on sera là à partir de 17h. À suivre l'information avec Sophie Tussaud sur Europe 1. Europe 1.